On est reconnaissant aussi pour cela que Dieu veille. Je vais remettre dans la prière Timothée, qui était quand même malade hier. Dieu permet qu'il soit là aussi avec nous, mais voilà, que le Seigneur prenne soin de lui. Seigneur, merci de garder ton serviteur Timothée, que tu puisses lui donner l'esprit éclairé, Seigneur, pour nous entraîner dans ce dernier culte de l'année, Seigneur. Amen.
Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez mieux que moi. Je suis quand même content d'être là ce matin, comme dit Joël, pour ce dernier culte de l'année. Et voilà, pour faire la transition, j'aime bien prêcher sur des psaumes. Donc j'avoue que je n'étais pas bien, donc j'ai pris une prédication que j'avais déjà faite autrefois. Et je vous emmène ce matin dans la lecture du psaume 8, pour ceux qui veulent préparer leur Bible. Psaume 8. Éternel notre Dieu, au chef des cœurs, sur la guttite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors voilà un psaume 8 pour finir ou ouvrir l'année. Un psaume poétique, comme beaucoup de psaumes. Mystérieux aussi, qui évoque des choses dont on ne comprend pas forcément le sens immédiat, mais qui évoque des choses profondes. Et nous allons nous plonger un peu dans cette profondeur ce matin. Alors, c'est un psaume d'adoration de David qui s'émerveille à propos de Dieu, de l'humain et de la création tout entière. Quelque part, David contemple son Dieu en le trouvant absolument fascinant et puissant. Il contemple la création qui l'entoure et la trouve merveilleuse, belle. Et ce qui l'interpelle dans toute cette beauté, c'est le rôle spécial que Dieu a donné à l'homme. Intendant de la création, juste au-dessous de Dieu. David en connaît un peu sur la gestion, sur l'autorité, c'est un roi. Il sait ce que ça veut dire que de régner. Il fait d'ailleurs partie des rares souverains d'Israël qui ont su regarder leurs péchés en face, qui ne se sont pas nourris d'illusions à propos de l'état spirituel de leur cœur. Donc, certainement, David était pessimiste. Diront certains, réalistes, diront d'autres, car sceptiques quant à la justesse du choix de Dieu de confier aux humains de régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un de bien pensant va confier aux humains de régner sur la terre ? Oui, l'humain est bien mal placé pour gérer au nom de Dieu. Gérer pour lui-même, on peut lui faire confiance, mais gérer au nom de Dieu la création, c'est une autre question. Et il exprime cette question, ce ressenti par cette question. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Ça nous emmène à considérer ce drôle d'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu éprouve pour moi si on considère ce que je fais de bien avec ce qu'il me confie. Pourquoi Dieu s'acharne-t-il à me confier des choses ? Pourquoi persévère-t-il à vivre une relation avec moi, alors que les anges qui vivent dans sa présence reconnaissent tellement mieux sa divinité, sa gloire et sa pureté ? Drôle d'amour que celui de Dieu. Alors, vous savez maintenant, il ne faut pas prendre le mot « domination » au sens premier. Vous pouvez essayer de commander aux oiseaux, ça ne marche pas. Même mon chat, ça marche encore moins bien presque qu'avec les oiseaux. Nous ne dominons pas de cette manière-là. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons un pouvoir sur ces animaux, parce que nous pouvons façonner nos environnements à notre guise et détruire les leurs ou les faire prospérer selon ce que nous décidons. Nous pouvons les accueillir ou les faire mourir. Les chimpanzés savent utiliser une baguette en bois pour manger, et les fourmis peuvent créer des structures organisées très performantes. Mais nous, nous pouvons transformer n'importe quel lieu de la planète en un endroit de vie. Nous avons même des Inuits qui vivent au bord des pôles, des nomades qui vivent dans le désert, des indigènes dans les jungles, et des citadins même qui vivent dans le béton. Alors, il reste encore les fonds marins et les espaces qu'on n'a pas explorés. Mais, patience. Nous dominons la création de Dieu par notre capacité instinctive à façonner nos environnements à notre envie. Et les créatures qui habitent avec nous sont soumises à cette influence. Comme Dieu a tiré du chaos, des origines, un monde habitable par sa puissance, nous aussi, nous poursuivons à modeler ce monde habitable créé par Dieu. Hélas, nous le faisons plus dans la destruction que dans la construction. Nous dévorons plus la planète que nous la cultivons et nous chassons plus les animaux que nous en prenons soin. Même si je doute fortement que le roi David ait pressenti le réchauffement climatique quelques milliers d'années auparavant, je crois qu'il voyait déjà ce gâchis que les humains faisaient des responsabilités données par Dieu. Mais Dieu persévère. Il n'a jamais retiré ses pouvoirs aux humains. Nous l'avons tous et nous le vivons tous. Drôle d'amour que celui de notre Dieu. Et si je partage les réflexions de David sur le genre humain et la place que Dieu lui accorde, c'est pourtant le début du psaume qui m'intrigue le plus. Celui qui commence par cette expression de la supériorité de Dieu. Toi qui as établi ta majesté au-dessus des cieux, ou au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Ou toi qui rends plus éclatant le ciel. Le sens hébreu est obscur, mais l'idée est que Dieu surpasse en importance tout ce que nous pouvons percevoir. Et la suite, tout de suite. Donc, toi qui es au-dessus de tout ce qui peut être imaginé, et juste après, tac, par la bouche des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche des enfants, par la bouche des nouveau-nés, tu fais jaillir ta louange, tu confonds tes adversaires. Ce passage sera cité par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il viendra chasser les vendeurs du temple. Aussitôt après cet acte de colère, le texte raconte que des aveugles, des paralysés se sont approchés de lui dans la cour du temple et que les enfants criaient partout en disant « Hosanna au fils de David ». À ce moment, Jésus cite le psaume face à des pharisiens complètement indignés. Alors notre Seigneur est déroutant à persévérer de nous aimer et de nous confier les rênes de ce monde, et notre Seigneur est déroutant aussi d'une autre façon. Son importance, sa dignité, sa puissance sont telles que même la lune et les étoiles sont petites, simples, faciles à comprendre, comparées à lui. C'est dire si notre Dieu est grand. Mais voilà que David dit, face à ses ennemis, face à ses adversaires, face à ceux qui veulent tirer vengeance de ce Dieu, Dieu a trouvé la parade absolue, il les fait taire par la louange des enfants et des nouveau-nés. Alors, vous imaginez deux candidats politiques qui veulent faire campagne et qui veulent... Alors, il y en a un, il va chercher peut-être à avoir les soutiens de grandes figures, des Elon Musk ou des manias de la finance, des personnes qui pèsent lourd, on va dire. Et puis en face, il y en a un autre qui arrive et qui se fait adorer par des bébés. Est-ce que ça vaut ? Est-ce qu'on n'aura pas tendance à se dire, bon, mais si Elon Musk pense que c'est un homme capable et intelligent, ça vaut plus que des bébés. Hein ? C'est curieux. Il fait taire ses adversaires par la louange des nouveau-nés. Et en même temps, si quelqu'un rentre dans une pièce et que les enfants instinctivement ont peur de lui, alors que si quelqu'un d'autre rentre dans une pièce et que les enfants instinctivement s'approchent de lui, qu'est-ce que ça nous dit du cœur de ces personnes ? Bon, parfois les enfants ont peur des barbus ou des cheveux longs, je sais que ça m'arrive aussi. L'idée est là, notre Dieu superpuissant qui règne sur toute la création. Et qu'est-ce qu'il oppose à la violence des méchants, la louange des bébés ? Il ne veut pas être reconnu comme grand parce qu'en un claquement de doigts, il peut détruire l'univers. Il ne veut pas être reconnu comme grand parce qu'il peut nous juger et nous condamner à cause de notre péché. Il veut être reconnu comme grand parce que même des bébés face à lui le louent. Je ne sais pas d'où David a tiré cette compréhension, sans que le Saint-Esprit ait joué. Car c'est bien avant la venue de Jésus-Christ que David a écrit ce psaume, où il dit que Dieu tire sa louange des bébés pour confondre les violents. Déjà, il voyait en Dieu celui qui ne s'oppose pas au mal par le mal, celui qui ne répond pas à la violence par la violence, mais qui s'oppose au mal par le bien. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, mais... Moi, je médite sur cette phrase et je me dis, mais j'arrive pas à en saisir tout le sens. Ça veut dire quoi de tirer sa louange de la bouche des bébés ? Alors avec ces deux portraits de Dieu, celui qui persévère à nous confier des responsabilités sans cesse et sans cesse, et celui qui tire sa louange de la bouche des bébés, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous ? D'abord, je l'espère pour vous, une grande espérance. On a le meilleur Dieu du monde. On a le meilleur Dieu du monde. Car Dieu n'est pas quelqu'un qui veut faire vivre toute sa création sous la loi du plus fort. Si c'était le cas, ce ne seraient pas des bébés qui tiraient sa louange, mais des dictateurs, des puissants de ce monde. Il aimerait se faire adorer, se faire reconnaître par ces gens-là. Mais ce n'est pas auprès de ces gens-là qu'il veut tirer sa louange, c'est auprès des bébés. Donc Dieu ne veut pas un monde soumis à la loi du plus fort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un sujet de combat personnel aussi pour nous, pour chacun dans notre cœur. Nous non plus, nous ne voulons pas vivre sous la loi du plus fort. Nous laisser imposer la loi du plus fort par les autres ou imposer aux autres notre force. Parce que notre Dieu n'aime pas la loi du plus fort. Il n'aime pas la loi du plus diplômé, du plus beau, du plus grand, du plus friqué. La loi de Dieu, c'est de servir son prochain. Aime Dieu et aime ton prochain. Ça signifie que ce monde ne sera pas éternellement tel que nous le connaissons. Peut-être que vous êtes un tout petit qui est soumis à tous les grands qui vous imposent leur volonté. Peut-être que vous êtes un SDF ou un retraité au RSA qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois ou quoi que ce soit d'autre. Cette situation va finir un jour. Notre monde ne va pas durer dans cet état. Un jour, Dieu va le restaurer, et lorsqu'il le restaurera, c'en sera fini de ses dominations. C'est le monde qui passe, qui adore les riches et les puissants, pas le monde qui vient. Le monde qui vient, comme son Créateur, aime ceux qui sont doux, aimables, patients, gentils, miséricordieux, persévérants. Je ne vous refais pas la liste du fruit de l'esprit. Alors courage, car Christ, notre doux roi, a vaincu le monde. Ce monde va donc s'achever. Il faut tenir, tenir jusqu'au bout. Et alors vous aurez une joie, une paix, une vie absolument incroyable, délicieuse, vivifiante, enivrante à vivre, comparée à ce que vous affrontez maintenant. Tenons bon. Une autre chose à tirer, c'est la conversion à vivre. Il y a quelque temps de ça, j'ai envoyé de l'argent à un pasteur en République démocratique du Congo. Et donc, j'ai dû convertir mes euros en dollars. Il fallait changer de système monétaire pour qu'il puisse recevoir la richesse que je lui envoyais. Et bien, pour voir et goûter le royaume et le sentir, il faut aussi vivre une conversion de valeur. Changer de système de valeur. C'est une conversion plus profonde que de changer des euros en dollars. Il s'agit de passer des valeurs du monde actuel aux valeurs du royaume. Se repentir et croire sont les choses qui sont demandées à celui qui veut la vie éternelle. Cette repentance consiste à voir sur quoi j'ai fondé la valeur de mon salut, ma force, et de les comparer à ce que Dieu m'offre. Alors posons-nous cette question ce matin. Est-ce qu'un Dieu qui tire sa louange de la bouche des bébés suscite en moi un sentiment de fierté? Voilà. Est-ce que Dieu, j'en suis fier parce que il tire sa louange de la bouche des bébés? Pas facile. Et quelque part, David le pose comme quelque chose d'absolument merveilleux face à la violence, face aux vindicatifs, face à ceux qui sont voilà, dans le harcèlement. Toi, tu tires ta louange de la bouche des bébés. Ça me paraît vachement loin. Est-ce que mon Dieu est classe? Est-ce qu'il est beau? Parce que justement, je vois en lui cette réaction. Et si j'imite ce Dieu, si je cherche à imiter ce Dieu, bon, on est au Noël du cœur, et il y a monsieur le maire qui vient féliciter monsieur le pasteur, et il y a un gamin qui vient dire que la fête elle est trop bien. Quel est le compliment qui devrait le plus compter pour moi ? Ça devrait être l'enfant. Voilà. Pas monsieur le maire. Et ça devrait être comme ça dans toute ma vie. Si je veux être fier de ce Dieu-là, et que quelque part, ce qui anime ce Dieu-là m'anime moi aussi, si les valeurs poursuivies par ce Dieu-là sont celles que je poursuis aussi. Vous voyez ce renversement ? Cette conversion, pas facile à faire. Alors, une espérance et une mission. Le monde est entre les mains d'un bon Dieu, un très bon Dieu. Là, c'est notre espérance. Et notre mission, c'est de nous laisser être réformés dans l'intérieur de notre cœur par les valeurs qui animent ce bon Dieu. En l'occurrence, célébrer la louange des enfants par-dessus la louange des puissants de ce monde. Alors je vous invite à prier pour terminer. Oui, Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. magnifique sur toute la terre. Et pourtant, cette magnificence, Seigneur, nous aurons tendance à la chercher dans la force, dans la capacité à t'imposer aux autres et à te faire obéir malgré tout. Là où toi, Seigneur, tu la cherches ailleurs, dans la reconnaissance, dans l'affection, dans l'amour, dans la tendresse. On a du mal, Seigneur, à t'imaginer autrement que auréolé de puissance, de, je ne sais pas comment le dire, d'énergie, alors que toi, Seigneur, tu tires ta louange de la bouche des bébés. Alors, aide-nous à contempler, Seigneur, ce mystère, que toi, le grand Dieu créateur du monde, qui manipule les forces du cosmos elles-mêmes, tu aimes à tirer ta louange de la bouche des bébés. Et que cette vérité, Seigneur, aussi, elle pénètre nos cœurs, de sorte que nous aussi, nous cherchions la louange de la bouche des bébés. Et qu'elle compte plus pour nous que la louange des grands de ce monde. Seigneur, que tu nous aides, nous aussi, à être des instruments dans ce monde qui reflétons ta gloire. Aide-nous à aimer ta gloire. La gloire de celui qui résiste au mal par le bien, la gloire de celui qui pardonne 70 fois 7 fois, la gloire de celui qui décide d'aimer et de pardonner. Merci d'être qui tu es et que nous, tes enfants, nous, ton peuple, Seigneur, tranquillement mais sûrement, tu nous façonnes tous à ton image. Amen. Alors, je crois que je dois terminer, c'est ça? On va prendre un temps alors pour faire la prière d'intercession, puisque nous sommes le peuple de Dieu et que nous voulons présenter nos requêtes au Seigneur. Parce que si le peuple de Dieu n'intercède pas, qui le fera auprès du Seigneur? Voilà, Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'année. Dernier jour de l'année. Et déjà, nous te remettons toutes les personnes qui ont participé à ce culte au loin, retenues par la maladie. On te remet tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous pour des raisons de santé ou de... Voilà. Ou parce qu'ils sont fâchés avec l'Église, ou parce qu'ils sont fâchés avec quelqu'un de l'Église, ou parce que quelconque autre raison. Nous te remettons ces personnes qui font partie de notre famille spirituelle et qui ne peuvent pas être là ce matin. Et nous te demandons de les bénir. Puis toutes celles et ceux aussi qui sont pas là ce matin parce qu'ils sont simplement en famille, en vacances, et aussi que tu leur donnes du repos et de profiter de tout ce que nous avons reçu ce matin dans ce culte. On te remet, Seigneur, nos familles, tous ceux qui ne croient pas en toi, tous ceux qui ne te connaissent pas, ou qui t'ont connu, mais qui sont loin maintenant. Et tu sais, comme parfois nous sommes les moins bien placés dans nos familles pour parler de toi. Nous ne savons pas quoi faire, ou ne savons plus comment faire pour partager, Seigneur, qui tu es pour nous. Et je te demande, Seigneur, de trouver d'autres solutions ou de renouveler notre créativité pour témoigner du Seigneur. Et que tu ailles chercher, Seigneur, ces personnes qui nous sont chères, nos amis, nos membres de notre famille, qui ne t'appartiennent pas encore. Nous aurons tellement de joie, Seigneur, à les voir, te reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur. Te prions pour nos villes, nos villages, nos cités, où te remettons nos élus, te demandant de les garder du mal, de la corruption, Seigneur. Donne-leur un esprit de justesse, de moralité, pour être des serviteurs, des vrais intendants, Seigneur. Ils ont été élus pour être à notre service. Ils ont reçu une autorité pour s'en servir pour le bien de tous. Seigneur, que tu les rendes diligents par rapport à cela. Tu remets nos pays, la France particulièrement, dans ces temps de fêtes, de fin d'année, et puis le monde où il y a encore tant de guerres. Seigneur, nous te demandons d'apporter ta paix, de souffler ton esprit de paix, que ce soit pour le conflit israélo-palestinien ou que ce soit pour le conflit en Ukraine. Nous te demandons ta paix, Seigneur, tu apportes ta paix dans le monde. Et nous terminons cette prière d'intercession en résumant toutes celles qui ont été exprimées dans les cœurs avec la prière que tu nous as laissée, Seigneur. Et d'une même voix, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier chant ? Eh bien, on va se lever pour chanter le dernier chant avant de recevoir l'exhortation et la bénédiction. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, les discordes, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, et toutes ces choses semblables. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. Bon dimanche et bonne année.